BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Morris.
Le secteur de la restauration ne s'est pas encore totalement remis de l'extrême violence du confinement sur son économie, qu'il faut déjà se préparer à la potentielle arrivée d'une seconde vague. Les restaurants doivent démontrer qu'ils sont capables de rester ouverts en garantissant toute la sécurité sanitaire. Bonjour Hakim Gawawi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être sur BFM Business. Vous êtes le PDG fondateur des bistrots pas parisiens, 9 restaurants dans l'ouest parisien, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif pour cette année?
On avait pour objectif déjà d'ouvrir 3 nouveaux établissements sur 2020. Alors bien sûr, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sécurisé les fonds de commerce et les acquisitions, mais on attend la rentrée pour lancer les travaux. C'est un petit peu tout est un petit peu en stand-by.
Bien sûr.
Donc on a peu de visibilité aujourd'hui sur ce qui se passera à la rentrée. Donc on est comme tout le monde, au jour le jour, on prend des décisions.
Parce que vous êtes un groupe en pleine expansion, c'est vous ça. Êtes un groupe plein d'ambition. Vous vouliez ouvrir 3 restaurants cette année. C'est sûr que là, sur la première partie de l'année 2020, c'était pas possible. Néanmoins, vous gardez beaucoup d'ambition là pour la fin de l'année et pour l'année prochaine.
Alors, nous, on a la chance d'avoir une stratégie qui porte ses fruits. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de pas rentrer à l'intérieur de Paris, mais de rester que dans la petite couronne. Donc, on n'est pas dépendant des touristes de manière générale. On a une clientèle de proximité. On a des petits, petits prix. En fait, on est bon rapport qualité. On a de la cuisine de chef qui est très bien exécutée. Donc on avait le choix de se développer seulement dans la petite couronne et particulièrement dans les Hauts-de-Seine. Donc on était en plein élan puisqu'on est passé de 1 million à 30 millions en 5 ans et on avait pour ambition de doubler notre chiffre d'affaires l'année prochaine. Donc évidemment on a de la chance parce qu'on a réouvert et la quasi-totalité des restaurants ont pu réouvrir, en tout cas tous ceux qui avaient des grandes terrasses, qui était le cas pour la plupart des établissements. On a maintenu 2 établissements sur l'ensemble fermés parce qu'elles ne permettaient pas de pouvoir respecter les distances de sécurité entre les clients parce qu'elles n'avaient pas de grandes terrasses, mais pour le moment, c'est plutôt hyper positif pour nous.
Vous parliez de votre clientèle assez particulière dans les bistrots pas parisiens parce que, comme vous le disiez, c'est plutôt une clientèle de quartier. Ce sont des habitués, donc vous n'avez pas été victime de la même manière du fait qu'il y avait moins de touristes, moins d'étrangers en France pendant l'été.
On a senti une petite baisse sur la clientèle corporate du midi, ce qui est normal parce qu'on a beaucoup de déjeuners d'affaires le midi. Mais elle a été compensée par une augmentation de l'activité le soir. Donc on a rééquilibré et on a eu de bonnes surprises, notamment au Splash qui se trouve à Asnières, où on a quasiment fait le triple de ce qu'on croyait réaliser. Donc on est très content.
Très content. La saison estivale n'est pas encore tout à fait terminée. Là, on est à la mi-août. Est-ce que néanmoins, vous pouvez déjà tirer un bilan là, de votre activité estivale?
Alors, d'abord, ce que je voudrais, c'est remercier l'ensemble de mes collaborateurs qui travaillent dans des conditions qui sont très compliquées.
Combien de collaborateurs?
On a 380 personnes aujourd'hui qui travaillent avec nous, qui, effectivement, le port du masque est une véritable contrainte. Travailler en cuisine avec des températures qui montent au-dessus de 45 degrés, avec en plus l'impossibilité de pouvoir respirer normalement, est un problème.
Donc, qu'on a eu la canicule il y a quelques jours.
Exactement. Donc, je tenais à l'air merci parce qu'ils font un travail formidable. Pour le reste, effectivement, on a un petit peu, on est tous dans l'interrogation de ce qui va se passer à la rentrée.
En fait, c'est ça.
On a fait le choix, nous, dès début juillet, de prendre la température à nos clients. 2 fois par jour aussi à nos salariés. Alors évidemment, ça ne fait que sécuriser un peu plus, ça ne garantit rien.
Ça rassure, en tout cas.
Et ça rassure.
Et voilà.
Ça rassure et ça démontre qu'on prend tout ça très au sérieux. Et même si c'est compliqué, on essaie de protéger à la fois nos clients et nos salariés.
Bon, Hakim Gawawi, on est en train quand même de parler de potentielle refermeture ici et là, en tout cas à Paris, aussi dans les Bouches-du-Rhône. Est-ce que ça vous angoisse?
Écoutez, moi ça fait 27 ans que je fais ce métier, j'ai construit ma vie autour de mon projet professionnel, bien sûr que ça m'inquiète. Ce que je sais aussi, c'est que la restauration, c'est pas quelque chose qu'on peut délocaliser. Il y aura toujours quelque chose à faire dans ce métier. Il y a une période, certainement une période un peu compliquée à passer. Je pense que le gouvernement a pris des mesures significatives dès le départ, à travers le PGE ou les mesures de chômage partiel. Reste toujours la même question, l'interrogation des loyers, et notamment la participation des assurances. On est toujours en attente des retours des assureurs qui, eux, sont pour le moment les grands gagnants du Covid. Et on attend que ça change, quoi. Mais je pense que si chacun prend un peu ses responsabilités, on devrait pouvoir y arriver.
Bon, vous parliez des aides d'État, vous en aviez bénéficié largement, hein, comme l'ensemble du secteur de la restauration, bien sûr, avec l'activité partielle notamment. Est-ce qu'il faut encore ces aides-là pour que vous puissiez tenir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ?
Alors, nous, on les a quasiment, à part le PGE qu'on a levé mais qu'on n'a pas utilisé pour le moment, puisqu'on a eu la chance d'avoir une belle activité dès la reprise. On se pose la question à savoir comment on va continuer notre développement si la dette, on l'a pris pour maintenir notre activité. Et en ce qui concerne les mesures de chômage partiel, effectivement, c'est rassurant de se dire qu'en cas de baisse d'activité, on peut l'activer ou non. Voilà. Mais notre secteur d'activité reste un secteur un petit peu sinistré dans le recrutement, et on a toujours autant de difficultés à recruter malgré le nombre de personnes qui ne travaillent pas en ce moment. Ouais, c'est effectivement la grande interrogation. Je pense qu'il y a un problème de valorisation de notre métier, et aujourd'hui, alors que c'est un métier extraordinaire, on a encore beaucoup de mal à recruter, et encore plus aujourd'hui d'ailleurs, puisque tout le monde profite de ces mesures de chômage partiel, donc ça devient compliqué.
Mais là, vous n'êtes pas en train de recruter quand même.
Nous, on est en plein recrutement. On a besoin. Nous, on a recruté pendant la période d'été 80 collaborateurs.
Attendez, vous recrutez, vous trouvez pas, vous trouvez
personne. Non, nous, on travaille. La preuve, on existe encore.
Oui, bien
mais
sûr.
On fait un entretien, on recrute une personne. On devrait en avoir 10 pour en recruter une.
Sûr.
Voilà. Donc, oui, ça reste. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire, et en sachant en plus qu'il y a beaucoup de gens qui sont en chômage partiel et des activités, notamment dans les palaces qui sont fermées. Je pense que l'intelligence serait de renvoyer les gens dans les activités qui tournent.
Il faut faire de la pub. Il faut faire de la pub là sur la restauration.
C'est pour ça que je suis venu.
Bon, il va falloir aussi, à un moment donné, rembourser ces aides. Hakim, là aussi, c'est une source d'inquiétude pour vous ?
Alors, moi, je pense que la dette, pour moi, sert au développement. En l'occurrence, pour le moment, on a été chercher de la dette qui ne sert pas au développement et qui ne doit pas être utilisée pour le développement. Donc, se pose la question à savoir comment on va aller chercher de la dette pour le développement. Donc, il y a un risque d'un ralentissement de la croissance et des ouvertures. Et la question, effectivement, de lever de l'argent pour maintenir notre activité à flot m'interpelle. Et je l'avais déjà évoqué lors d'une émission chez vous, d'un passage, où je pense qu'il serait judicieux de remonter cette dette en quasi-fonds propres plutôt que de la laisser en dette pure pour qu'on puisse continuer à exister et à pouvoir continuer notre développement.
Il faut révolutionner le secteur de la restauration. C'est aussi une des leçons de cette crise sanitaire là, de la Covid-19. Ça doit être un électrochoc pour vous, innover, se réinventer, être plus agile pour ne pas pâtir de cette manière, des circonstances de la crise.
Alors, il y a des gens qui, par leur activité, font le choix du trafic naturel lorsqu'ils ouvrent un établissement. C'est-à-dire qu'on va dans un établissement où il y a du monde qui passe devant, et on se dit que comme l'emplacement est bon, il y aura des clients. C'est une stratégie parmi d'autres. Nous, on a choisi autre chose. On a choisi d'aller là où il n'y avait personne et il y avait une demande. Et on est très à cheval sur le rapport qualité-prix et sur l'expérience client. La dimension émotionnelle qui se passe lors d'un déjeuner ou d'un dîner, pour nous, est essentielle. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de maintenir notre activité avec des taux d'occupation des tables très importants. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, en fait.
Mais au-delà de ça, Hakim Gawawi, si les restaurants viennent à refermer,
ouais,
ce qui n'est pas complètement impossible, comment vous faites ? Je sais que vous pensez notamment à la livraison de repas. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place et qu'il faut développer maintenant, avant que le pire peut-être recommence ?
De notre côté, on a envisagé pendant la période de fermeture les solutions de livraison à domicile. Bon, d'abord, il faut savoir que nos structures à nous sont très lourdes. Donc, les réouvertures sont coûteuses. Ensuite, nous, on sait faire de la nourriture, mais on ne sait pas livrer les gens. Donc, et quand on fait appel à des gens
qui délivrent. Il y a plein de startups qui savent le faire. C'est possible de s'associer aujourd'hui. Alors, vous êtes un groupe aussi très agile.
Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça coûte très cher. Ça coûte à peu près 30% du montant de l'addition se retrouvera dans les poches de la livraison. Et 30%, ce n'est pas notre marge. Donc, c'est pour nous pas possible. Alors, L'expérience client, pour nous, elle se fait à l'intérieur des établissements. Je pense que la livraison à domicile et la vente à emporter, c'est encore un autre métier. Je pense que 50% de ce que viennent chercher les gens chez nous, c'est l'expérience, le moment passé, la convivialité. Et finalement, les autres 50%, c'est la nourriture. Mais on ne peut pas réduire notre métier que au fait de faire à manger. Ça ne suffira
si
pas.
Si ça ferme à Kim Gawawi, comme ça a été le cas là, pendant 6 semaines de confinement,
On fera comme on a fait.
L'expérience, il n'y en aura plus.
Alors, on fera comme on a fait pendant la fermeture, c'est-à-dire qu'on a livré 18 700 repas qu'on a offert bénévolement à tout un tas d'organismes pour maintenir nos salariés actifs et pour venir en aide à la population. Je pense que si les mesures de chômage partiel sont maintenues, si effectivement la question des loyers est traitée, et notamment la position des assurances, soit tranché une bonne fois pour toutes, je pense qu'on sera capable de traverser cette crise. Maintenant, moi, j'ai la chance d'avoir des partenaires financiers. J'ai un fonds d'investissement qui s'appelle Exandam qui travaille avec lequel on travaille. On a la BNP qui travaille avec nous depuis un moment et qui nous soutient également. Donc, on travaille en mode survie pendant un moment. Et je pense que tout ça va revenir progressivement dans l'ordre quand on aura un vaccin.
Bien sûr, on l'attend tous, ce vaccin. Ouais. Le principal objectif, ça va être pour vous là de rester ouvert coûte que coûte.
Alors non, pas n'importe quel prix. Nous, on ouvre seulement si on gagne de l'argent. Sinon, ça sert à rien. Donc, l'idée, c'est de se dire... Enfin, la vocation d'entreprise, c'est de continuer à exister et de s'équilibrer. Donc, on n'a pas vocation à gagner de l'argent, à s'enrichir, ça c'est sûr. On n'y arrivera pas et on a déjà perdu beaucoup d'argent. Par contre, on a pour vocation d'équilibrer. Donc, on ouvre quand on est capable d'équilibrer. C'est comme un mode veille, en fait. Et c'est uniquement ça qu'on va chercher pour le moment avant de reprendre le développement et la croissance normale.
Il y a l'hiver qui va arriver, ça va arriver très très vite, même si on est en plein mois d'août. Vous allez continuer à chauffer les terrasses pour attirer les clients, ça vous fait sourire. Vous en avez encore le droit aujourd'hui, ça ne sera plus le cas d'ici un an.
Alors là, moi, il y a des mesures que je ne comprends pas. Oui. Je ne suis pas certain qu'on sauve la planète en éteignant le chauffage sur une terrasse, mais je comprends qu'il y a une volonté politique.
En tout cas, ça va se faire.
Oui, ça va se faire. Bon, nous, on a encore une fois la chance de ne pas utiliser le chauffage dans nos terrasses parce qu'on a suffisamment de surface à l'intérieur pour pouvoir compenser. C'est pas le cas de tous mes confrères qui ont effectivement acheté leurs emplacements en tenant compte du fait qu'ils avaient un business model qui tournait avec une terrasse qui était chauffée. Demain, pour eux, ça sera plus le cas. Moi, je suis très inquiet pour eux. Mais bon, je pense que les choses vont... Bon, je pense que les gens, il faut qu'ils se mobilisent aussi. Il faut à un moment qu'ils parlent de leurs problèmes et qu'ils expliquent que c'est pas si simple, notre métier.
Bon, un dernier mot avec vous, Hakim Gawawi, sur un exemple venu de l'étranger. On a vu ça hier, je ne sais pas si vous l'avez aperçu. C'est vrai que l'État était plutôt solidaire en France pendant la crise, avec de nombreuses aides. Au Royaume-Uni, l'État a mis en place le remboursement dans les bars et restaurants de 50% des additions dans les jours dits de creux, c'est-à-dire du lundi au mercredi. Résultat, un regain de fréquentation ces derniers jours. Est-ce que c'est aussi typiquement ce genre d'aide que vous aimeriez voir arriver dans les prochaines aides pour vous aider?
Moi, je comprends pas le concept. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est effectivement le rôle de l'État, c'est de veiller à ce que les conditions sanitaires soient respectées, qu'on puisse travailler normalement, qu'on ne puisse effectivement ne pas avoir à solliciter la moindre des aides, pouvoir recruter notre personnel dont on a besoin. Mais
de vous assister, quoi.
Non, je préférerais une baisse de la TVA qui serait plus normale. On achète à 5,5, on devrait reverser 5,5, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des gens comme Olivier Bertrand qui l'ont déjà demandé. Pourtant, c'est le numéro 2 de la restauration en France et on ne l'a pas écouté. Mais j'ai bon espoir qu'on nous entende au sujet de la TVA.
Merci beaucoup.
Merci.
En tout cas, le message est passé sur BFM Business. Merci beaucoup à Hakim Gawawi, PDG fondateur des Bistrots Pas Parisiens, qui était notre invité. Restez avec nous. Dans un instant, nous retrouvons Michel Resseguier, PDG fondateur de Prosfer, expert en retournement d'entreprise. On revient avec lui sur les différents rachats depuis le début de la crise. A tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Morris.
Les plans de licenciement liés à la crise du coronavirus se sont suivis tout au long de l'été dans l'hôtellerie, l'événementiel, dans l'aéronautique, dans l'industrie textile aussi. Quasiment l'ensemble des secteurs économiques sont touchés. Lundi, donc hier, c'était Camailleux, repris par l'homme d'affaires bordelais Michel Ohayon. 80% des emplois conservés dans l'enseigne de prêt-à-porter féminin. C'est donc la suite d'une longue série depuis le début de la crise et ce n'est vraisemblablement pas terminé. Bonjour Michel Resseguier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes êtes le PDG fondateur de Prosphère. Vous êtes en quelque sorte l'urgentiste des entreprises en difficulté. Vous avez l'habitude de prendre les commandes des boîtes de façon temporaire lorsque le risque de dépôt de bilan se rapproche dangereusement. D'abord, Michel Rességuier, en cette période très chargée, sur quel dossier est-ce que vous êtes, vous, là, en ce moment ?
Alors, on en a plusieurs, mais certains sont confidentiels, donc je serai discret sur ce sujet. Disons qu'il y a un certain nombre d'actionnaires qui se préoccupent de l'évolution et des risques de leur modèle économique avant d'approcher d'un redressement judiciaire potentiel, si vous voulez. Et ça, c'est toujours très intéressant, évidemment, de s'y prendre bien à l'avance, de ne pas confondre la situation conjoncturelle et la situation structurelle. Vous citiez Camaïeu il y a un instant. Camaïeu, c'est typique. Vous êtes à la fois dans la transformation du monde du retail, dans la transformation du rapport au textile, qui a complètement changé en 20 ans. Je suis un dernier des Mohicans à porter une cravate. Vous voyez, bon, voilà. Donc ça a complètement changé. Il y a 20 ans, tout le monde portait. Et en même temps, évidemment, il y a la crise Covid. Donc, il cumule tout ça. Donc, vous voyez que c'est à la fois du conjoncturel et du structurel.
Bon, justement, sur cette affaire que vous citiez, la plus récente, au cœur de l'actualité, on parlait de Camaïeu, bien sûr, repris donc par Michel Ohayon, qui a été accepté par le tribunal de commerce de Lille, lundi. Comment vous regardez ça ? Est-ce qu'on peut qualifier cette opération de succès, entre guillemets, par rapport aux autres scénarios qui auraient pu se produire ?
Je suis incapable de porter un jugement sur les différents scénarios possibles. Je vois que les salariés sont satisfaits et c'est toujours encourageant pour l'avenir, évidemment, même si, et d'ailleurs je lisais dans la presse, dans Libération ce matin, qu'un représentant syndical s'en inquiétait, les salariés peuvent être sensibles à des discours et à des promesses qui sont pas toujours suffisamment étayées, voilà, et donc ils sont pas toujours bons juges, voilà. C'est pas toujours facile, évidemment, pour eux de savoir. Bon. Mais en tous les cas, je suis ravi qu'il y ait une solution qui ait émergé, une solution assez positive quand même, parce que 80% des emplois repris, c'est un beau pari qui peut être réussi, auquel moi je crois, et donc je m'en réjouis évidemment pour Camaïeu et pour ses salariés.
Bon, et la question qui se pose aussi, Michel Rességuier, et qui peut-être est plus au cœur de votre expertise, c'est pourquoi Camaïeu allait si mal d'une certaine manière. Est-ce qu'on aurait pu éviter d'en arriver là, je veux dire, si on avait regardé le problème bien en amont ?
Mais exactement, c'est tout le sujet, absolument. Et il se trouve que j'ai eu à connaître un tout petit peu de Camaïeu. Le sujet, il est structurel, absolument. Encore une fois, le rapport à l'habillement a complètement changé ces dernières années. Moi, quand j'étais plus jeune, si vous voulez, c'était un symbole socio-professionnel beaucoup plus fort et qui caractérisait beaucoup plus les différentes catégories socio-professionnelles. Voilà. Aujourd'hui, en réalité, tout le monde s'habille un peu de la même façon et il y a des échanges considérables entre les catégories dans les choix vestimentaires et les repères vestimentaires. Donc il y a ce premier changement qui est absolument radical. Donc finalement, il y a une question fondamentale, c'est quel est le client idéal de Camaïeu ?
Donc en fait, ce que vous nous dites, Michel Rességuier, c'est que la crise couvait déjà finalement et la crise sanitaire de la Covid-19 n'a fait que accélérer les choses ou révéler les choses.
Exactement, et c'est un grand danger d'ailleurs de la gestion de cette crise. C'est que des dirigeants se disent et des actionnaires se disent avec eux, bon, c'est la crise du Covid et donc finalement je n'ai pas grand chose à remettre en question, il faut faire le gros dos et passer la crise et je n'y suis pour rien. Alors que des secteurs comme le textile et des secteurs comme le retail, et Camaïeu cumule les deux, au contraire, sont des secteurs qui disent Covid ou pas, doivent se réinventer complètement. Leur modèle économique passé ne sera pas le modèle économique du futur.
Ça veut dire que maintenant, il faut repenser urgemment et de fond en comble les modèles de certaines entreprises là, pour éviter que l'hécatombe se poursuive.
Et exactement. Moi, j'avais des discussions juste avant le déclenchement de la crise du Covid avec une entreprise dans le domaine du meuble, par exemple. Quoi. Et quand la crise s'est déclenchée, cette entreprise, elle s'est dit « Non, mais on va faire un plan d'économie ». Et l'enjeu, c'est jamais un plan d'économie. L'enjeu, c'est, ou alors ça voudrait dire que l'entreprise était mal gérée avant, et je ne crois pas que l'entreprise était mal gérée avant. L'enjeu, c'est mon modèle économique. Pareil, le rapport au meuble a énormément changé. Le meuble de ma grand-mère, là, de ma grand-mère, de ma femme, d'ailleurs, pour être précis, vous avez derrière moi, parce que je suis en vacances.
On le voit bien, oui.
C'est un meuble qui aujourd'hui est très difficile à placer dans la plupart de nos logements. Et d'ailleurs, j'en ai plus qu'un. Voilà, j'en ai gardé aucun autre. Donc le rapport au meuble a complètement changé. Et donc de la même façon, Covid ou pas, le monde, l'industrie du meuble doit se réinventer complètement.
Ouais, il faut vivre avec son temps. Combien de temps encore les aides de l'État vont permettre de limiter la casse? Est-ce que ce n'est pas toutes ces aides, donnez-nous votre avis là-dessus, mais reporter, repousser la catastrophe?
Alors, moi je regrette honnêtement l'excès, non pas d'aide, parce que je crois qu'une fois, mais l'excès de confinement, voilà, on va dire, qu'a choisi le gouvernement. Je crois qu'on a quand même, à leur insu et pas toujours à leur conscience, sacrifier les jeunes générations au bénéfice des vieilles générations auxquelles j'appartiens d'ailleurs. Hein, voilà, bon. Donc je le dis d'autant plus naturellement. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il fallait ces choix politiques étaient faits, même si je pense qu'ils étaient un peu excessifs.
Mais même les groupes qui ont largement bénéficié d'aides d'État, ils ont aussi procédé, ça ne les a pas empêchés d'avoir recours à des licenciements massifs. On a eu Air France, 7000 suppressions d'emplois, Airbus, 5000 et puis encore d'autres. Hein.
Non mais c'est ça, une fois que le mal était fait, aller soutenir les entreprises, et donc on encaisse en ce moment le premier choc, c'est-à-dire celui des entreprises qui, soutenues ou pas suffisamment, d'ailleurs je vais y revenir dans un instant, peuvent pas supporter la crise, parce qu'en réalité vous avez un problème, c'est les entreprises de taille moyenne, hein, qui sont quand même pas très bien soutenues, et notamment si elles étaient ce qu'on appelle débancarisées, c'est-à-dire qu'elles n'avaient plus d'emprunt auprès des banques, elles ont du mal à avoir le prêt garanti par l'État si elles sont de petite taille. Si elles sont de grosse taille, elles sont soutenues. C'est ce que vous venez de rappeler pour Air France. Si elles sont de petite taille, c'est plus compliqué. Et ensuite, évidemment, comme vous le dites, va se poser le problème du remboursement, qui est tout à fait clé. Si on a le même taux de défaillance pour les prêts bancaires habituels, ça sera supportable pour le gouvernement français, pour l'État français, on va dire. Si on a un taux de défaillance supérieur, et c'est probable, il va bien falloir trouver une solution. Donc il va falloir que des capitaux privés viennent au secours, rachètent ces dettes des entreprises, en quelque sorte, viennent au secours des entreprises. Et ça, c'est pour 2021, ouais, à mon avis.
Bon, en 20 secondes, Michel Rességuier, 275 plans de sauvegarde de l'emploi, les PSE recensés entre le 1er mars et le 19 juillet, ça laisse peut-être craindre le pire pour la rentrée. Attention particulière aux sous-traitants, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais ils sont aussi très dépendants des grands groupes qui souffrent pendant cette crise.
Je ne crois pas que la rentrée sera plus difficile que l'été.
Ah, vous ne pensez pas?
Je ne pense pas. Je pense qu'on va continuer à vivre ce premier choc, on l'encaisse. Le problème, ça va être le printemps 2021. Ça va être quand les résultats 2020 vont sortir, que les premiers reportings des premiers mois de 2021 vont sortir et qu'il va falloir commencer à rembourser la dette.
Bon, en tout cas, on continuera bien sûr de suivre tous ces dossiers tout au long de la fin de l'été et puis à la rentrée, bien sûr, sur BFM Business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Rességuier, pour vos analyses. Je rappelle que vous êtes le PDG fondateur de Prosfer. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec l'essentiel de l'actualité économique. À tout de suite.